Jérémie 10, verset 23. Le prophète dit une chose très vraie et que je pense la plupart d'entre nous, nous avons compris aussi à un moment donné dans notre vie. Mais peut-être y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore compris cela. Vous savez, c'est très facile dans notre vie de croire qu'on est sauvé. Hein, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aller au paradis. Il y a même quelqu'un qui a chanté « On ira tous au paradis ». Alors ça, c'est bien sûr des gens qui le disent, mais ce n'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai, forcément. Et on voit bien que ce n'est pas vrai. Hein, ce n'est pas vrai. Mais il est vrai que le chemin de l'homme, il pense que voilà, c'est un chemin qui conduit au paradis, quoi que ce soit comme chemin qu'on suive. Mais la Bible nous dit que souvent, derrière ce chemin que l'homme voit comme étant un chemin finalement qui n'est pas si mal que ça, par rapport à ceux qui croient en Jésus, par rapport à ceux qui croient en Dieu, faut-il vraiment croire en Jésus et en Dieu pour aller au paradis? Voilà ce qu'ils disent, parce que finalement, quand je regarde les chrétiens, eh bien, je ne me comporte pas si mal que ça, j'ai une vie aussi honnête, j'ai ma conscience pour moi, comme ils disent, etc. Mais c'est un chemin qui paraît peut-être aller dans la même direction, mais pourtant, dit la Bible, ce chemin il conduit vers la mort, et pas seulement la mort physique, parce qu'on ira tous, à moins que le Seigneur ne revienne, mais vers la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre ce qu'on va lire là, parce que tant qu'on ne l'a pas compris, eh bien, on pense finalement qu'avec une bonne moralité, faire attention de ne pas faire trop de mal autour de soi, on pense qu'on ira quand même au paradis. Et c'est faux. Et voici ce qu'il est dit, verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Une autre version rend le passage de cette façon. « Seigneur, je le sais, l'être humain n'est pas maître de son avenir. Il n'a pas les moyens d'orienter sa vie. » Et j'ai retenu cette autre version parce que je trouve qu'elle évoque bien ce que je voulais vous apporter ce matin. L'être humain n'a pas les moyens, dira le prophète, d'orienter sa vie. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des instruments formidables qu'on appelle des GPS ou d'autres appellations, mais en tout cas qui nous permettent de diriger, de nous orienter quand on veut aller d'un endroit à un autre. Et là, ce que le prophète est en train de nous dire, c'est que Dieu n'a pas mis dans l'homme la capacité de pouvoir s'orienter pour aller au paradis. Nous n'avons pas été dotés, n'est-ce pas, dans notre création génétique ou dans nos sens, quels qu'ils soient, d'un moyen de direction. Ce n'est pas à l'homme, n'est-ce pas, de diriger ses pas, mais c'est à qui alors ? Parce que si l'homme ne peut pas le faire, il faut bien que quelqu'un puisse l'aider à le diriger, le prenne par la main et le guide, le conduise. On voit cela, n'est-ce pas, quand on est petit enfant, on ne peut pas se diriger par soi-même s'il n'y a pas une maman, un papa, quelqu'un qui nous tient par la main et qui nous conduise vers le lieu où on doit aller. Et là, Dieu est en train de nous dire, et il est en train de te dire, mon ami, ce matin, si tu ne l'as pas encore compris, que quoi que tu en dises, peut-être tu penses que tu es capable de diriger ta vie et peut-être même tu dis, eh bien, ce n'est pas les autres qui vont diriger ma vie. Ça, c'est vrai aussi parce que si l'homme n'a pas le pouvoir d'orienter sa vie, ça veut dire que personne d'entre nous n'a ce pouvoir. D'accord ? Mais beaucoup pensent qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent y arriver. Même certains diront, moi, je ferai mieux que mes parents. Eux, ils n'ont pas réussi, mais moi, je sais comment je vais faire. Hein ? Mais tant que l'on fait confiance à soi-même, à ses propres capacités, on se crée un gros problème parce que, en fait, on n'a pas en nous-mêmes les ressources nécessaires pour orienter notre vie dans la bonne direction, là où on voudrait aller. Quand on pose la question en général, et là c'est valable sur tous les continents, où est-ce que vous voulez aller après la mort ? La plupart du temps, les gens répondent « Je veux aller dans un endroit de paix, de félicité, de repos, de bonheur », n'est-ce pas ? Beaucoup de gens veulent connaître ce bonheur, et même déjà ici-bas. Mais qui nous fera voir le bonheur, dit la Bible ? Et c'est là tout le problème, parce que la Bible répond en disant « Mais l'homme n'a pas la capacité, n'a pas les moyens d'orienter sa vie pour connaître ce bonheur. » Combien de gens qui sont partis dans la vie avec toutes sortes d'illusions, toutes sortes de buts, et qui se retrouvent très rapidement, parfois quelques années seulement après, avec beaucoup de désillusions, parce qu'ils se sont rendus compte, finalement, de quoi ? Qu'ils sont pires que les autres ? Non. Comme disait un prophète, je ne suis pas meilleur que mes pères, simplement. Ils découvrent à un moment donné dans leur vie que, ben voilà, quand on fait confiance à son propre jugement, à ses propres capacités, à sa propre connaissance intellectuelle, physique, pour diriger notre vie, on fait fausse route. Parce que Dieu ne nous a pas donné un GPS, naturellement. Il nous faut quelqu'un, il nous faut l'action de Dieu dans nos vies. Nous avons donc besoin de Dieu, qu'on le veuille ou pas. Un jour ou l'autre, l'homme, la femme est obligé de reconnaître cette vérité dans sa vie s'il veut s'en sortir, qu'il a besoin d'un sauveur qui n'est pas de cette terre, mais comme Jésus le dira, qui vient d'en haut. Et ce sauveur, ce guide, ce berger, eh bien, c'est Jésus-Christ, celui qui est venu il y a 2000 ans sur notre terre, qui a donné sa vie sur une croix pour nous permettre de retrouver, j'allais dire, la direction, le sens de notre vie. Et Jésus est le seul qui peut donner à l'être humain vraiment la bonne direction. Tu entendras, disait aussi le prophète Ésaïe, donc on peut venir un petit peu en arrière au chapitre 30 du prophète Ésaïe, et au verset 21. Si nous n'avons pas, nous, la capacité de diriger, d'orienter notre vie, Dieu promet que si on vient à lui, si on revient à lui, eh bien, d'un seul coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va entendre ? Eh bien, on va entendre, comme moi, quand j'ai mis mon GPS dans ma voiture, n'est-ce pas ? Une voix qui s'appelle Catherine, d'ailleurs. Et toujours, même si ma femme n'est pas dans ma voiture, elle est là quand même, puisque c'est elle qui me dit où je dois tourner et où je dois aller. Et alors, on entend une voix qui nous dit « Vous tournez la première à droite. » Puis si on n'a pas bien compris, elle répète encore « Première à droite. » Et même des fois, il prévient 2 kilomètres avant, n'est-ce pas ? Sortie imminente. Je crois que Dieu est capable aussi de nous dire « Attention, tu vas bientôt t'en aller. » Sortie imminente. Alors, il faut se préparer. Quand on entend ça, sortie imminente, il faut se préparer parce que le jour où Dieu nous le dira, ça veut dire qu'on va quitter cette terre. Il faut mettre ses affaires en ordre quand on quitte la terre, parce que des fois, ça va vite. 2 kilomètres, ça paraît long, mais en même temps, ça va très vite. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici ? Eh bien, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » C'est ça le problème, c'est que si on n'entend pas la voix qui nous dit « Voilà le chemin, qu'est-ce que nous on fait ?» Eh bien, on va à droite ou on va à gauche. Quand on sait d'ailleurs ce qu'est notre gauche. Comme je disais à ma femme dernièrement encore, décidément je la mets à l'honneur ce matin, je lui disais à gauche, et elle tournait à droite, alors je lui dis non, l'autre gauche. Nous sommes souvent égarés, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas le sens de l'orientation, et nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu qui nous dit, voilà le chemin, c'est là que tu dois marcher. Et là, quand tu entends cette voix, dit le prophète, tu ne peux pas te tromper de chemin. Tu es dans le bon chemin, même si autour de toi, on se moque de toi, on te dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es fou. Même si on te dit, mais c'est rétro ce que tu prends comme direction. Mais si c'est la voix de Dieu qui te dit, marche dans ce chemin, tu peux être sûr que tu es dans le bon chemin. Tu es dans le bon chemin. Tu entendras la voix. C'est ce que le prophète disait à l'époque. Et la voix de Dieu, elle retentissait souvent par les prophètes que Dieu envoyait dans le peuple, au milieu du peuple. Mais aujourd'hui, on a mieux encore qu'une voix qui retentit derrière nous. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a donné son esprit et il nous l'a envoyé jusque dans nos cœurs. Nous avons été dotés maintenant d'un GPS formidable, parce que le Saint-Esprit est capable de nous dire « voilà le chemin » intérieurement, sans même entendre avec nos oreilles. Donc, pas de problème, même si tu es un peu dur d'oreille, si tu es un peu sourd, même ou complètement sourd, c'est-à-dire si tu ne m'entends pas ce matin, mais tu peux entendre la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Parce que quand le Saint-Esprit parle, il n'a pas besoin d'oreilles, de conduits, n'est-ce pas, intérieurs, et même de neurones jusqu'au cerveau pour qu'on l'entende. Il peut faire monter directement à notre cerveau par le cœur, par le Saint-Esprit, ce dont nous avons besoin de comprendre. Ça, c'est formidable. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Seigneur lui-même habite en toi. Il n'est pas seulement avec toi, il n'est pas seulement derrière toi, il n'est pas seulement devant toi, mais il est en toi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu veux prendre une route qui n'est pas la bonne? Eh bien, la Bible nous dit que le Saint-Esprit peut nous empêcher. Et oui, dans les Actes des apôtres, on voit par exemple l'apôtre Paul qui a fait des projets d'évangélisation formidables, tout un territoire nouveau à évangéliser. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit ne permit pas à Paul de faire cela. Et vous remarquerez que le texte est sobre, il ne dit pas comment le Saint-Esprit s'y est pris pour dire, faire comprendre à Paul que ce n'était pas là le bon chemin. Il est simplement dit que le Saint-Esprit empêcha Paul d'aller où il voulait. Et je crois que quand on est vraiment revenu vers le Seigneur, lorsqu'on a compris qu'on n'a pas, nous, la capacité de diriger nos vies, nos pas, et en plus quand on a une famille, quand on a un époux, une épouse, et en plus quand on a des enfants qui s'ajoutent, oh là là, quelle galère, hein ? C'est pas facile de comprendre quelle direction prendre. Eh bien là, si on revient vers Dieu, si on entend la voix du bon berger qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Pourquoi Jésus s'adresse à nous comme des gens fatigués et chargés? Parce que quand on cherche à diriger nos pas nous-mêmes, c'est ce qui nous arrive. On finit par être fatigué, chargé parce qu'on ramasse plein de gamelles, n'est-ce pas, en cours de route, et on ne sait plus quoi en faire. Alors Jésus connaissait, n'est-ce pas, l'état du cœur de l'homme qui marche sans Dieu, qui marche par ses propres forces. Il y a un moment donné où l'homme est obligé de craquer et de dire « mais je n'en peux plus, je suis à bout, je ne sais plus quoi faire ». Alors quand on est comme cela, eh bien c'est là que Jésus dit « bien si tu es comme cela, viens à moi ». Pourquoi ? Parce que je vous donnerai du repos, dit Jésus. C'est tellement reposant. Vous savez, dans le temps, quand il n'y avait pas de GPS et que je devais aller visiter quelqu'un que je ne connaissais pas encore bien où il habitait, j'étais obligé de prendre une carte, n'est-ce pas, de la ville. Et quand on est comme dans une ville comme Nantes, n'est-ce pas, c'est pas évident, hein, les rues un peu dans tous les sens. Et j'étais obligé de repérer le chemin. Quel tracas! Et parfois, même en cours de route, j'étais obligé de prendre ma carte sur le volant, faut pas le dire, hein, mais vous avez vu que des fois, il y en a qui le font quand même. Une fois, j'ai même vu quelqu'un qui lisait son journal comme ça sur le volant, mais enfin bref. Et obligé de lire la carte et essayer, c'est une vraie galère. Et si en plus vous avez une déviation, parce que ça arrive souvent ça, hein, qu'il y ait des travaux quelque part, une déviation où le plan a changé, alors là vous êtes complètement perdu parce que vous êtes obligé de partir ailleurs et après vous ne savez plus. Mais quel repos quand vous avez un GPS. Même si vous avez des travaux, vous vous détournez, vous vous loupez une route, il vous ramène toujours au même endroit où vous voulez aller. C'est formidable ça. Quel repos quand on laisse Jésus guider notre vie. Quel repos quand on fait confiance à sa parole pour nous donner des directions. Quel repos quand on sait que, quoi qu'il arrive, on a quelqu'un en nous qui peut nous dire « voilà le chemin ». Même si on se trompe, on a droit à l'erreur. Il y a parfois des gens qui se mettent la pression pour rien et qui se font tout un tas de problèmes avec ça. Mais si je me trompe, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est terrible. Mais quand tu te trompes, le Saint-Esprit est capable de te ramener dans le bon chemin. Parce qu'il ne va pas te laisser te perdre. Il veille sur toi, il veille sur ton chemin, il a les yeux sur toi. Et si tu es à l'écoute du Saint-Esprit, bien sûr, c'est un apprentissage, c'est nouveau. Il faut apprendre à écouter. Mais quand on l'a appris et quand on veille ensuite à écouter la voix de Dieu, eh bien, le Seigneur nous montrera toujours quel est le bon chemin. On peut lui parler, c'est ça qui est formidable avec le Saint-Esprit. Moi, avec le GPS, je ne peux pas lui parler. Des fois, je lui dis « Non, tu te trompes ». Ben oui, parce qu'un GPS, ça arrive qu'il se trompe. Hein, si vous voulez aller dans Nantes, il va vous conduire directement au centre-ville. Il ne faut surtout pas prendre ça. Hein. Si vous ne voulez pas rester une heure au centre-ville, ne suivez pas votre GPS. Mais j'ai beau lui dire « tu te trompes », lui, il continue de me dire « tourne à droite, tourne à droite, tourne à droite ». Moi, je tourne à gauche. Alors, il n'est pas content, il recalcule et il essaye de me ramener « faites demi-tour ». Et moi, je ne fais pas demi-tour. Mais parce que là, je sais qu'il se trompe. Mais quand on peut, avec Dieu, dialoguer, dire avec le Saint-Esprit, « Seigneur, tu vois, là, je ne comprends pas. T'es sûr que c'est comme ça qu'il faut que je fasse ?» Alors le Seigneur, il entend ce que je lui pose comme question. Il est intelligent, il me répond. Il peut me dire, « Mais si, 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 j'ai raison en te disant, fais comme ceci. » Non, 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 tu as tort de faire comme cela. Voilà, il peut nous répondre. Et ça, c'est formidable, un GPS avec lequel on peut parler. Alors le Saint-Esprit est bien plus qu'un GPS, bien sûr, vous l'avez compris. Il est le Dieu Tout-Puissant qui connaît non seulement les orientations, je dirais, dans la trois dimensions que nous avons sur la terre, mais surtout qui connaît les dimensions spirituelles et qui a fait une promesse. C'est que si on revient à lui et qu'on met notre main dans la sienne, il nous conduira à bon port. Il veillera. Jésus a dit, « Celui qui est dans la main de mon Père, personne ne pourra le ravir de ma main, et il nous conduira jusqu'au bon port. » David connaissait Dieu, il était un homme qui avait compris un jour qu'il avait besoin d'un berger, et il le dira dans un psaume que vous connaissez bien, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. » Formidable. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit cela, ça fait ringard dans ce monde, hein. Ah bon, t'as besoin de Dieu, toi? T'as besoin d'un berger? T'es pas capable de te diriger tout seul? Eh ben non, je ne suis pas capable exactement de me diriger tout seul. Si un jour on vous fait le reproche, dites-le clairement. Et toi non plus, tu n'es pas capable de te diriger. Dans la mesure, si tu veux vraiment aller au paradis, si tu veux aller vraiment dans le repos de Dieu, si tu veux accomplir vraiment ce pourquoi Dieu t'a créé, eh bien, tu as besoin toi aussi du bon berger. Et ce bon berger, c'est Jésus. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Faites alliance avec moi. Mon joug parle d'une alliance, n'est-ce pas, entre nous et Jésus. Et on a parlé de ça tout à l'heure. Et recevez mes instructions, bien sûr. Ensuite, il faut écouter ce que Jésus nous dit, n'est-ce pas, par sa parole, par le Saint-Esprit. Je suis doux et humble de cœur. Ouais. Jésus n'est pas comme certains hommes qui dominent sur les autres. D'ailleurs, Jésus a dû dénoncer cela déjà parmi ses disciples, hein, parce qu'ils étaient comme ça un peu au départ, et il a fallu qu'ils comprennent que ce n'est pas comme cela. Lui, il dit, je suis doux et humble de cœur. Si vous vous trompez, vous n'écoutez pas sa voix, il ne va pas se fâcher, pas vous menacer, mais il va essayer de vous convaincre, avec douceur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, vous-même, alors vous allez le trouver parce que vous allez maintenant apprendre à dépendre de Dieu. L'homme n'est pas fait pour marcher dans ce principe de vie par ses propres moyens, que la Bible appelle les ténèbres. Vous savez que dans le jardin d'Éden, Satan a proposé un deal à Ève. Le deal, c'était « tu manges de ce fruit-là, et ensuite, tu n'as plus besoin de Dieu pour te diriger. Tu seras toi-même comme Dieu. » Formidable, hein, Ève? Et Ève, elle regarde ce fruit-là, elle dit, oh là là, finalement, c'est vrai, ce serait formidable de ne plus avoir à dépendre de Dieu, mais de savoir soi-même qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Sauf que le diable, quand il vous fait un deal, il ne vous dit pas tout, hein. Il lui a surtout pas dit que le jour où il connaîtrait le bien et le mal, il serait incapable de choisir le bien, mais que le mal les entraînerait loin de Dieu. Ça, Satan ne lui a pas dit. Et Ève s'est fait piéger, et non seulement Ève, mais Adam aussi. Et vous connaissez la suite. parce qu'ils ont voulu se passer de Dieu, parce qu'ils ont voulu eux-mêmes être des dieux, comme Satan leur proposait, ils ont, c'est vrai, goûté à une certaine connaissance, une connaissance qui était interdite par Dieu, que la Bible appelle les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi ? C'est un autre principe de vie. Les ténèbres, ce n'est pas quelque chose qui est une folie. Les ténèbres que le diable propose au cœur de l'homme, c'est exactement ce que l'homme vit lorsqu'il vit par ses propres moyens, par les moyens qu'il trouve, n'est-ce pas, dans ce monde, la vaine manière de vivre dont parlera Pierre, hérité de nos pères, le courant qui agit dans ce monde, dira Paul aussi, selon l'esprit qui conduit les gens de ce monde. C'est ça les ténèbres. En fait, les ténèbres, c'est quoi ? C'est une façon de vivre où on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de dépendre de Dieu. On suit un autre chemin qui s'appelle les ténèbres. Selon le diable, cette connaissance devait amener les êtres humains à un stade de Dieu où ils n'auraient plus besoin de Dieu. Mais très rapidement, les conséquences de cette connaissance et de ce choix qu'ils ont fait ont été terribles pour la terre, mais aussi très rapidement pour les hommes, car les hommes sont devenus malheureux, vivant sans Dieu, et ce malheur qui a frappé l'humanité, Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, va le dire dans une phrase toute simple, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et mes amis, quand on est privé de la gloire de Dieu, eh bien on ne sait plus où on est, et on ne voit même pas qu'on va vers la perdition. On pense qu'on va vers le paradis, mais la Bible dit, quand l'homme dit « telle voie est droite, moi je dis Dieu, cette voie que tu suis, elle conduit à la mort. » C'est terrible ça. Un égarement donc total qui fait que l'homme ne se rend pas compte qu'il est en train de suivre une autre voie, une voie qui semble parallèle, parfois même meilleure, mais qui en fait est une voie qui conduit à la mort éternelle, privée de la gloire de Dieu. Voilà ce qui est arrivé lorsque Adam et Ève ont voulu se passer de Dieu. Et voilà ce qui nous est arrivé à tous quand on est né sur cette terre. On est né dans ce principe des ténèbres jusqu'au jour où on s'est rendu compte que marcher comme ça, c'est très fatigant. Parce qu'on n'est pas des taupes. Ah oui, les taupes, vous savez, elles arrivent à marcher dans la terre, comme ça, sans problème, mais nous, on n'est pas fait pour cela. On n'est pas des chouettes pour vivre dans les ténèbres, dans la nuit. Le péché a plongé, dit la Bible, les hommes dans un égarement spirituel. Et ce qui est terrible, c'est que les hommes sont incapables de sortir de cet égarement. C'est comme dans un monde parallèle à celui que Dieu a voulu pour l'être humain. Et comment passer de ce monde parallèle au vrai monde, celui de Dieu ? Aujourd'hui, il y a toutes sortes de science-fiction là-dessus, vous savez, pour les jeunes, hein. Mais là, on est vraiment dans deux mondes différents. Le monde des ténèbres, dans lequel tu es né, et le monde que Jésus est venu apporter, le royaume de Dieu, un royaume de lumière. Comment passer d'un royaume à l'autre, d'un monde à l'autre ? Eh bien, le seul moyen d'y parvenir, c'est la repentance. C'est-à-dire, c'est dire, Seigneur, j'abdique, je reconnais que je suis incapable, je me suis trompé. C'est toi qui as raison, moi j'ai tout faux. On ne peut pas avoir deux demi-mesures dans ce domaine-là. Vous ne pouvez pas marcher avec un pied dans les ténèbres et l'autre dans la lumière. Ce n'est pas possible. Vous allez être écartelé et à un moment donné, vous allez mourir comme ça. Il faut franchir. Et comment franchir, n'est-ce pas, cette porte que Dieu nous a donnée? Eh bien, par la foi en Jésus-Christ. La foi que son sacrifice a permis à tout être humain qui le désire, qui revient vers Dieu, de pouvoir effectivement être accepté comme il est, qui n'a pas besoin de s'améliorer, de se changer, ce qui est souvent le credo de beaucoup de religions. Et croyez-moi, la religion, Satan aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que la religion, c'est un autre produit des ténèbres. Qu'est-ce que la religion dit ? Eh bien, fais tes efforts. Améliore-toi toi-même. Voilà le principe des ténèbres. Ne compte surtout pas sur Dieu, mais fais tes efforts. Et la voie que Dieu nous propose, c'est Jésus a tout accompli. Crois-le et tu passeras des ténèbres à la lumière. Alléluia. Les efforts religieux, donc, sont encore une manifestation des ténèbres, et c'est pourquoi beaucoup de gens qui suivent une religion sont fatigués et chargés. Et quand Jésus a lancé cette invitation il y a 2000 ans, vous tous qui êtes fatigués et chargés, à qui il a envoyé cette invitation ? À des Juifs. Des Juifs qui étaient comment ? Qui étaient dominés par les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, les sacrificateurs, les chefs du peuple. Et qu'est-ce que Jésus disait à ces gens-là, à ces pharisiens ? Il leur disait ceci dans Luc 11, 46 par exemple, parce qu'il y a d'autres passages. Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Voilà pourquoi il leur disait, « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués et chargés par tous ces efforts que vous essayez de produire dans votre religion pour soi-disant mériter votre ciel, moi je vous l'offre, croyez-le simplement. » Et vous allez passer d'un monde à un autre. Jésus, venir à Jésus, c'est passer du monde des ténèbres au monde de la lumière. Jésus s'est présenté comme la lumière du monde qui, en venant dans le monde, est venu éclairer tout homme. C'est l'apôtre Jean qui commence comme cela son évangile. Et un peu plus loin, dans Jean 8, 12, il relate ce que Jésus a dit. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. C'est ça la différence entre se convertir à Jésus et ne pas se convertir. Quand tu n'es pas converti à Jésus, tu continues de suivre ton propre chemin. Quand tu es converti à Jésus, tu deviens une brebis du bon berger. Tu suis le berger. C'est plus toi qui diriges tes pas. Et tu t'en trouves bien, tu es heureux, tu es paisible, loin de là, j'ai l'âme tranquille, disait David, alléluia. Quand tu n'as plus à te soucier, n'est-ce pas, comment je dois faire, Jésus te montre le chemin, tu entends cette voix intérieure qui te dit, voilà le chemin, marche-y. Ça devient naturel. La religion a dit, il ne faut pas faire, il faut faire. La vie en Christ, le Saint-Esprit te dit, voilà le chemin, marche-y. Et tu trouves alors une voie toute tracée en toi qui te permet de savoir où tu dois mettre tes pieds. Ce n'est plus en termes de commandement, mais c'est en termes d'indication, de direction de vie, de force, de conviction. Et quand tu as la conviction intérieure que c'est là le chemin, eh bien même si tout le monde autour de toi te dit « non, ce n'est pas le bon chemin », qu'est-ce que tu fais ? Tu vas suivre ta conviction. À part ceux qui sont dans les sectes, qui se laissent dominer par des gourous, qui leur imposent, n'est-ce pas, des vues, des visions, contre parfois même leurs propres convictions. Mais sinon, quand tu as une conviction, tu fais selon ta conviction. Et quand cette conviction, elle vient de Dieu, elle vient de Dieu, elle vient de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, de la lumière, c'est clair, alléluia, tu ne te poses pas la question. Entre les ténèbres, la nuit, n'est-ce pas, et le jour, la lumière, il n'y a pas photo, hein ? On voit tout de suite la différence. Et quand Jésus te parle, quand sa parole vient dans ton cœur, quand le Saint-Esprit t'illumine intérieurement, tu ne te poses plus la question « Où est-ce que je dois aller ? Qu'est-ce que je dois faire ?» C'est clair, c'est clair. Et alors, tu marches et tu vas dans une vie nouvelle, car il dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et Jésus fera une autre invitation, un jour de grande fête religieuse justement, où les gens étaient censés trouver le bonheur, la paix, le Seigneur, mais en fait repartaient de cette fête déçus, brisés, fatigués, chargés toujours, parce que tout ce qu'ils avaient trouvé, c'était encore un peu plus de commandements, un peu plus de « il faut faire, il ne faut pas faire ». Et Jésus va se tenir, n'est-ce pas, là devant eux, et il va dire ceci, le dernier jour, dans Jean 7, 37, vous trouverez cette invitation de Jésus, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alléluia. Si quelqu'un est fatigué et chargé, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Lorsqu'un homme revient à son Créateur par Jésus-Christ, il va découvrir un autre principe de vie que la Bible appelle la vie éternelle. où l'homme ne dirige plus ses pas, mais où le Saint-Esprit prend la direction des affaires. Et quand le Saint-Esprit prend la direction de notre vie, ça donne une toute autre dimension à notre vie. Ça devient exaltant. Alléluia. Seuls les enfants de Dieu ont ce privilège d'être conduits par le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pourquoi il faut d'abord passer par cette repentance, cette conversion, ce renoncement à soi-même, comme Jésus l'a dit. Comment suivre Jésus ? Il faut d'abord renoncer à soi-même, à avoir confiance dans tes propres jugements. Il faut que tu renonces à cela et que tu fasses confiance maintenant au Seigneur. C'est comme ça que tu pourras prétendre à connaître cette vie nouvelle, ce repos, déjà ici-bas. Même si, effectivement, la vie ici-bas est faite de pas mal d'épreuves, mais une épreuve dans laquelle tu es quand même conduit par le Saint-Esprit, ça change complètement la donne de ceux qui passent l'épreuve, qui prennent tout en pleine figure et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Avec Dieu, c'est différent. L'épreuve n'est pas un échec pour nous. L'épreuve, c'est un moyen, au contraire, de vivre davantage, encore plus peut-être que d'habitude, cette direction de Dieu, cette consolation de Dieu, cette présence divine à nos côtés par le Saint-Esprit. Mais il faut d'abord renoncer. Il faut croire aussi, parce que pour renoncer, c'est impossible de renoncer si on n'a pas quelque chose de meilleur. Et la foi est nécessairement liée à la repentance, parce que pour se repentir, pour renoncer à soi-même, il faut d'abord avoir trouvé celui qui peut prendre en charge notre vie. Quand le brigand sur la croix a dit « Pour nous, c'est justice parce qu'on mérite c'est ce qui nous arrive. Nos crimes nous ont conduits là. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Si ce brigand arrive à confesser son péché, c'est parce qu'il a découvert Jésus d'un seul coup, qui est le berger de son âme et qu'il peut se confier en lui. C'est grâce à la foi, donc, qu'on peut renoncer et abandonner ce système de vie. C'est grâce à la foi qu'Abraham, un jour, a accepté de quitter son pays sans savoir où il allait. C'est pas banal, quand même. Vous partez sans savoir où vous allez. Nous, on s'en va. On sait quand même où on va. Même si on ne sait pas où on va loger en arrivant, mais on sait quand même où on va. Mais lui, il ne savait pas où il allait. Et c'est Dieu qui l'a conduit jusque l'endroit où habitent aujourd'hui ses descendants, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Abraham a foulé ce sol il y a des milliers d'années en arrière, n'est-ce pas ? Avant même que la nation d'Israël n'existe, Abraham a été conduit par Dieu depuis cette région où il était à Ur, en Chaldée, n'est-ce pas ? L'Irak, l'Iran d'aujourd'hui, et il est venu par des marches avec ses troupeaux, etc., jusque dans ce petit territoire qu'on appelait à l'époque le territoire de Canaan, et qui est devenu le territoire d'Israël. C'est par la foi, dira Hébreux 11, verset 8, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ça s'appelle la foi toute simple. Ça ne se démontre pas, ça ne s'explique pas, mais ça se reçoit. Dieu te l'accorde quand tu fais confiance à Jésus. Alors, en conclusion, on pourrait se poser la question, dans quel principe vivons-nous ? Dans quel principe vis-tu ? Es-tu encore dans le péché ? C'est-à-dire, es-tu encore le maître de ta vie ? Est-ce que c'est encore toi qui guides tes pas, conduis tes décisions, etc. ? Essayant tant bien que mal de faire ta vie, de réussir ta vie, je peux t'annoncer à l'avance que ça sera l'échec, malheureusement. Et si tu l'as compris aujourd'hui, eh bien, je t'invite alors à revenir vers ton Créateur, à entendre cette voix du bon berger qui t'aime. Et si tu reviens à lui, il ne te fera pas de reproche pour ta vie passée parce qu'il sait ce qu'est ta vie. Quelqu'un qui se dirige par lui-même, dans quoi il peut se diriger ? Automatiquement, il va se tromper. Il arrive dans des impasses, il fait des erreurs, il commet des choses, alors plus ou moins, bien sûr, avec plus ou moins de conséquences. Voilà, mais néanmoins, il sait cela, où cela conduit l'être humain. C'est pourquoi quand quelqu'un revient à Dieu par Jésus-Christ, il n'y a pas de reproche, mais il n'y a simplement que de l'amour. Mon enfant qui était perdu, maintenant est retrouvé. Alléluia. On fait la fête. je t'invite vraiment à t'abandonner à ton Créateur, à te décharger alors sur lui de tous tes soucis. Quand la Bible dit que celui qui a trouvé Dieu, il peut se décharger vraiment de tous ses soucis, c'est formidable ça. Ah oui, parce qu'on se décharge vraiment, on n'en parle pas seulement et on repart avec. Non, non, on se décharge sur le Seigneur. Maintenant, Seigneur, ce n'est plus mon problème. Je te le confie et tu vas diriger maintenant les choses. Ce que moi, je n'arrive pas à faire, je le confie au Seigneur. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Tu n'as rien à craindre du Saint-Esprit. Jésus l'a dit, si un enfant demande à son père, n'est-ce pas un œuf, est-ce qu'on va lui donner un scorpion ou un serpent, etc. Non. Alors, si vous vous demandez à votre Père Céleste le Saint-Esprit, est-ce qu'il va vous donner autre chose? Non. Votre Père vous donnera le Saint-Esprit. Vous n'avez rien à craindre du Saint-Esprit. C'est un ami merveilleux. C'est un ami, un consolateur. Jésus a dit, il vous est avantageux même de le recevoir. Il vous est avantageux que moi, Jésus, je parte afin que vous receviez le Saint-Esprit. Parce que lui, il sera en vous. Il fera sa demeure dans votre cœur. Encore mieux, n'est-ce pas, que ce qu'Ésaïe annonçait, la voix intérieure du Saint-Esprit te guidera chaque jour vers le but à atteindre et il te donnera toutes les indications dont tu auras besoin pour l'atteindre. Et même si ta vie n'est pas facile, mais regarde celle de l'apôtre Paul, c'est pas une vie facile, mais pourtant il est arrivé au bout. Et il a dit, j'ai gardé la foi et je sais maintenant que la couronne m'est réservée. Eh bien, c'est toi aussi qui diras cela au moment où le Seigneur te dira, te préviendra peut-être quelques heures avant ou quelques jours avant. Attention, sortie imminente, tu réuniras ta famille et tu leur diras, voilà, ma vie n'a pas été facile, vous en avez été témoin, mais le Seigneur m'a conduit jusque-là. Et maintenant, je sais qu'il m'attend et que c'est lui qui va me prendre là, qui va me faire sortir de mon corps et qui va m'amener là où je dois aller. Il y a des gens, ils veulent savoir tout à l'avance, mais ils ne peuvent pas tout savoir. Mais je sais une chose, c'est quand je mourrai, Jésus sera là et me prendra, ou ses anges me prendront et m'emmèneront là où. Alors, formidable. Et pour la suite, ça sera encore pareil. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il termine ce psaume en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen.